Bonjour et bon sabbat. Je sais que chaque prédicateur qui est ici et pour la première fois dit que c'est un privilège et c'est un honneur d'être là. Ça paraît un peu répétitif, mais c'est vrai, c'est toujours un plaisir d'être, de faire partie d'un mouvement tellement grand que dans chaque église où on se retrouve le sabbat matin, c'est agréable d'y être. Et c'est beau de pouvoir partager ensemble un moment de louange, un moment de méditation, un moment de partage aussi fraternel. Alors merci de nous accueillir, merci de nous donner la possibilité d'utiliser cette église pour cette formation. Alors oui, les raisons pour lesquelles nous sommes ici, c'est parce que nous sommes en un week-end de formation MAE. Ce week-end, de façon spéciale, nous allons parler de la préadolescence, de l'adolescence, du monde dans lequel les jeunes évoluent et grandissent, et le rôle des parents et des éducateurs avec cette tranche d'âge. Qui d'entre vous a un adolescent dans la famille? Oui, bienvenue dans le club. Moi, j'ai passé le cap, mais je sais de quoi je parle et de quoi nous parlons. Alors, sachez qu'il n'y a rien de nouveau, sachez que les adolescents, c'est tout à fait normal. Moi, j'ose toujours dire que c'est la période la plus belle de la vie, même si ça paraît la plus difficile, mais c'est la plus belle, parce qu'on découvre et on redécouvre des choses en tant qu'enfant qui grandit, donc pré-ado et ado. Les parents, ben, on a besoin de revenir peut-être en arrière et de se rappeler quand on était adolescent. Quelque part, hein? ce que nous aimions et nous n'aimions pas de nos parents. Mais bon, ça c'est juste pour faire une petite introduction sur la raison pour laquelle nous avons focalisé notre formation justement sur ce monde qui est très très vaste. Nous n'allons pas du tout couvrir tous les domaines, mais il y aura des sujets intéressants. Donc si vous avez envie cet après-midi, restez là ou revenez et peut-être vous allez découvrir quelque chose que vous ne saviez pas, ou bien vous allez rafraîchir ce que vous connaissez déjà. En fait, nous avons des objectifs et des rêves pour nos enfants. Quel parent n'a pas des rêves et des objectifs pour ses enfants? Alors, quels sont ces rêves? Quelle est cette vision? Qu'est-ce que nous voudrions qu'ils deviennent quand ils sont adultes? Et en tant que parents, quel projet nous avons pour eux? Parce qu'on ne met pas au monde un enfant juste pour dire, bon, j'ai envie d'avoir un enfant, et puis voilà. En tant que chrétien, on a un projet de vie, on a quelque chose qui se met en place. Et en général, qu'est-ce qui nous intéresse le plus? Quand on demande aux parents, qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Assez souvent, malheureusement, on parle de carrière. On aimerait que notre enfant ait eu beaucoup de succès et une belle carrière. Peut-être quelqu'un parle d'autonomie. Il dit « Oui, j'aimerais bien qu'il soit une personne autonome, une personne qui sache bien, se rapporter à la vie. Sûrement, tout le monde aime et voudrait être heureux. Donc, on souhaite aussi que nos enfants soient heureux. Et aussi, nous aimerions les voir actifs dans la société. Peut-être quelqu'un d'autre dira, je voudrais qu'ils soient en bonne santé. Ça, c'est un souhait pour tout le monde. Et peut-être quelqu'un aussi pourrait dire, ah, vivement qu'ils partent. Hein? Je sais, dans certains pays, c'est assez facile de dire, bon, ben maintenant, dégage. Tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu as 18 ans, dégage. Je ne sais pas comment sont les habitudes en Belgique. Je suis d'origine italienne et en Italie, les enfants tendent à rester très longtemps à la maison. Vous savez, les mamme italiane. On est très maman cool. On aime bien garder nos enfants, nous les pouponner. Et les enfants, ils sont bien contents d'avoir une maman qui lave, qui repasse, qui cuisine bien, etc. voilà. Donc, mais il y a dans notre réalité, on dit vivement qu'ils partent pourvu qu'ils le fassent le plus vite possible. Alors, oui, nous avons tous ces beaux souhaits, toutes ces visions, tous ces désirs, mais est-ce que nous avons une vision spirituelle pour nos adolescents? Et bien sûr, il est important aussi de nous fixer des projets et des objectifs spirituels. Nous aimerions que nos enfants apprennent à connaître et aimer le Seigneur, à le servir, bien sûr. Et en fait, si nous n'avons pas d'objectif spécifique du point de vue spirituel, nos résultats sont pratiquement nuls. C'est vrai que c'est un moment de remise en question, l'adolescence. Mais c'est un moment où justement on essaye de remettre sur pied ce qu'on a reçu en tant qu'enfant. Et on aimerait le faire avec nos propres moyens, mais bien sûr avec l'aide des parents. Alors ce matin, nous avons pensé de prendre deux exemples bibliques. Et là, dans quelques minutes, je vais demander l'aide des enfants. Quelques exemples, deux exemples bibliques et deux expériences d'adolescents bien distinctes. Un est dans l'Ancien Testament et un autre est dans le Nouveau Testament. Alors, les enfants, je vous demande de venir un peu plus ici devant parce qu'après, je vais vous donner aussi une chose à faire pendant le culte. Alors, est-ce que vous avez envie de venir ici devant? Il y en a déjà deux. Voilà. Voilà les autres. Alors, j'ai deux petites devinettes. C'est un « Qui suis-je ?» Vous savez, c'est des histoires bibliques. Hein. Je vous aide. Je vous donne déjà une piste. Voilà, merci. Merci d'être là. Alors, je donne quelques pistes concernant le premier personnage. Je suis l'avant-dernier de 12 frères. Mon père m'a fait un cadeau d'un vêtement très particulier. Allez, alors, attendez, je continue. J'ai reçu à travers un rêve des informations concernant mon futur. J'ai vu, hein, mais je veux que tout le monde y arrive. J'ai voyagé vers un pays étranger quand j'avais à peu près 17 ans. Par respect pour mon patron, je n'ai pas accepté une invitation. J'ai passé plusieurs années en prison. J'ai revu mon père après très longtemps. Et j'ai aidé un pays à rester prospère alors que les pays voisins traversaient une grosse crise. Alors je vous demande tous ensemble, c'est qui ?
Joseph !
Joseph, bravo ! Alors ça c'est bien, vous avez des bons moniteurs et des bons parents qui vous enseignent les belles histoires. Alors maintenant on va trouver un autre. Hein? Joseph en fait il avait reçu une belle robe, alors on connaît tous l'histoire de Joseph. Alors maintenant je pars avec un deuxième. Et ça c'est une histoire dans le Nouveau Testament. Mon père m'a donné beaucoup d'argent. J'ai voyagé vers un pays étranger quand j'étais jeune. J'ai eu des amis qui restaient avec moi par intérêt. J'ai passé plusieurs années au service d'un patron qui me traitait en esclave. Bravo, bravo. Alors, je continue. J'ai subi les conséquences de mes choix. J'ai revu mon père après très longtemps et nous avons fait la fête ensemble. Je n'ai qu'un frère aîné. Mais il était jaloux de moi et il n'était pas très content de me revoir. C'est qui ? Bravo ! Bravo ! Alors, pendant le culte, je vais vous donner du travail à faire. Comme ça, vous allez écouter, mais vous allez aussi faire une activité. Alors, vous êtes tous assez grands, j'espère avoir assez de documents. Alors, nous avons justement ces deux exemples. Donc, on a dit le fils prodigue et le Joseph. Et c'est intéressant de voir que ces deux histoires ont des différences, de grandes différences, mais aussi beaucoup de similitudes. Par exemple, les deux histoires parlent d'un père et de ses fils. Il y a aussi un fils cadet comme personnage principal. Et encore, ils partent vers un pays lointain, l'un par choix et l'autre par force. Il y a eu une famine dans les deux pays. Ils ont travaillé pour un citoyen de ce pays lointain. Les deux pères pensaient avoir perdu leur fils. Joseph reçoit une robe donnée par son père au début de l'histoire. Le fils prodigue reçoit une robe de son père à la fin de l'histoire. Les frères aînés n'étaient pas très... les frères aînés étaient tout aussi jaloux de Joseph et du fils prodigue. Et dans les deux cas, les frères n'étaient pas heureux de revoir leur frère lorsqu'ils l'ont revu après longtemps. Et dans les deux cas, le père et le fils ont fait de joyeuses retrouvailles et leur relation est restaurée. Et ceci pour les similitudes.
Mais il y a aussi des contrastes. Des contrastes intéressants, des contrastes qui vont nous aider à comprendre beaucoup mieux aussi ces deux histoires. Dans ces contrastes, nous avons donc d'abord le fait que Joseph a commencé sa vie adulte dans un pays lointain en tant qu'esclave. Ce que le fils prodigue n'a pas vraiment fait non plus dans ce domaine, mais Joseph a eu une vie particulière. Le fils prodigue se trouvait dans un pays lointain et vivait comme un esclave aussi, même si on a très peu d'informations par rapport à Joseph. On a un Joseph qui a commencé dans un pays étranger sans rien. Vendu avec rien. A contrario, un fils prodigue qui, lui, avait tout. Nous avons un Joseph qui a reçu du mal qu'il ne méritait pas. Et le pire de tout, le mal vient de sa famille. Je ne sais pas si vous sentez un peu cette difficulté qu'il y a, surtout pour un ado, de se trouver dans une famille qui se déchire. Pour le fils prodigue, lui, par contre, il a reçu tous ses biens qu'il n'a pas gagnés. On a l'impression que c'est une famille idyllique. Rien, au départ de l'histoire, supposait un problème entre frères. Nous avons un Joseph qui a gagné des richesses. Nous avons un fils prodigue qui a tout perdu, qui n'a pas su capitaliser ses biens. Nous avons eu un Joseph qui se trouve dans un pays étranger avec des richesses et des honneurs à la fin. Nous avons un fils prodigue qui, lui, a trouvé, mais dans un monde qui est en dessous du dessous du moyen social. Celui qui a tout perdu, celui qui a été humilié, celui qui est sans abri, qui est un immigré, qui n'est pas reconnu dans son pays, qui doit se nourrir avec ce qu'il peut. Nous avons un Joseph qui a refusé à plusieurs reprises de commettre des péchés. Mais nous avons un fils prodigue qui, lui, a bien vécu. On en a bien profité quand même, de la société quand on était riche. On a bien profité de toutes les petites luxures qu'offre la société. Nous avons un Joseph qui a gardé avec honneur pour retrouver son père. Le souhait de retrouver son père. Par contre, nous avons eu un fils prodigue qui a souhaité aussi retrouver son père dans l'humilité la plus totale. Je ne suis pas digne. Et enfin, nous avons un Joseph qui a reçu une bague du roi. Et dans l'histoire de Joseph, on va le voir peut-être à un moment donné, c'est descendre bien bas pour arriver très haut. Et pour le fils prodigue, c'est commencer très haut pour arriver très bas. Et pourtant, le fils prodigue a reçu une bague lui aussi. Deux types d'adolescence, deux types de jeunes, deux types de vie différentes dans ce contexte-là. Alors, une question s'impose. Lequel de ces deux modèles d'adolescence souhaiteriez-vous, préféreriez-vous pour votre enfant, sachant que les deux reçoivent la bague. À l'arrivée, tout va bien. La finalité, parce qu'on la connaît. Pourtant, on se pose la question, lequel des deux ? Donc, il y a ici deux scénarios possibles. Deux scénarios dont le premier est un enfant qui quittera la maison avant qu'il ne soit prêt, peut-être, avant qu'il puisse trouver un travail correct, gaspillera peut-être l'argent qu'on lui donnera, qui fera la fête, couchera avec les prostituées ou les filles, ou quand il sera à l'université, qui pourra avoir toutes les filles qu'il veut, ou inversement, l'étudiante qui découvre avec joie que les garçons sont pas si mal que ça, et hop là, jusqu'à ce qu'il trouve enfin, ou elle trouve enfin, ce qu'on appelle la raison. Deuxième scénario. Dans les circonstances les plus difficiles, et souvent qui ne sont pas provoquées d'ailleurs par le jeune, par la vie de famille, mon enfant sera intègre, loyal, avec un éthique de travail, c'est la mode en ce moment, avec une pensée écologique, avec une pensée du respect humain, avec une pensée de respect de Dieu, avec un leadership qui va grandir, qui sera capable de respecter les choses. Il va en baver. Mais il va garder cela pour ses besoins dans la vieillesse.
Alors, oui, bien sûr, le choix se fait peut-être facilement, malgré l'expérience quand même difficile. Disons que, fondamentalement, on dirait, si je dois vraiment choisir le sort de mon enfant, je préfère quand même le sort de Joseph. Alors, effectivement, pensons un peu et focalisons-nous sur que veut dire élever un Joseph du 21e siècle. Parce que ce qui est beau de la Bible, c'est que la Bible nous donne des histoires et nous transmet des vécus pour nous aider à comprendre peut-être ou à se poser des objectifs. Alors, qu'est-ce qui a fait que Joseph reste fidèle ? Qu'est-ce qui a fait que Joseph, malgré tout, n'est pas renié son Dieu. Bien sûr, l'éducation a compté. Mais dans un livre intéressant qui a comme titre en anglais « Raising a Modern Day Joseph », il y a l'auteur qui a développé 5 aspects qui paraissent intéressants et que nous partageons avec vous ce matin. Il parle que dans l'expérience de Joseph, il y a 5 fils conducteurs de la vie. 5 aspects qui ont fait que Joseph reste fidèle et que Joseph garde le cap. Ces 5 aspects, c'est le respect, la sagesse, la grâce, la destinée et la perspective. Nous allons les examiner un peu à la fois, un après l'autre. Tout d'abord, le fil conducteur numéro 1. Le respect. Et nous avons un texte biblique. Un texte qui explique justement l'histoire de Joseph quand la femme de Potiphar lui fait une proposition qu'il ne peut accepter. Il refusa et il dit à la femme, « Mon maître ne me demande compte de rien. » Donc c'est déjà le respect pour son maître. Il dit, mais à la fin il dit, « Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu ?» Alors oui, Joseph avait appris le respect. Il a respecté le caractère inviolable du mariage. Il a respecté le bien et le mal. Il savait la différence. Il savait comment gérer ces aspects. Et il respectait Dieu.
Le deuxième élément est la sagesse. Et la sagesse, lorsque nous regardons le texte biblique dans Genèse au chapitre 40, nous avons un Joseph qui Ici, même dans les situations les plus difficiles, même dans les moments les plus difficiles, il est toujours présent pour répondre à des questions. Et ici, c'est pour les rêves. Il voit des gens, alors qu'il n'est pas dans une situation facile, hein, qu'il n'est pas dans une situation agréable. J'ai envie de dire, vous savez, quand à un moment donné, et surtout quand on est jeune, quand on est entouré que par des problèmes, pas reconnus, moins que rien, on a envie de tout valdinguer, de tout casser, de tout me renfermer. Joseph, lui, a gardé cette sagesse. Joseph, lui, s'est souvenu de ce qu'était un élément primordial dans sa famille. Si quelqu'un a le visage abattu, alors allons l'aider pour revenir à une joie. Si je peux l'aider, alors je serai là. Et dans ce contexte ici, il sait qu'il y a de la sagesse en Dieu. Dans le texte qui nous est donné ici, il sait que de la sagesse est en Dieu. Et il sait qu'on peut avoir cette relation avec Dieu qui nous permet de comprendre, de réaliser ce qui est bien de ce qui n'est pas bien et de répondre aux questions que Dieu peut nous donner. Il y a dans ce texte ici cet aspect de la sagesse où ces mots nous en disent long sur Joseph. Il voyait en Dieu la source de la sagesse. Ça s'apprend, ça se travaille, ça se vit. Il était certain de sa relation avec Dieu et de la sagesse de Dieu. Nos enfants devraient donc avoir cette même relation avec Dieu, tisser la connaissance des Écritures dans la formation quotidienne, dans ce que nous pouvons vivre, dans ce que nous sommes, nous, en tant que parents, la cohérence de ce que je dis et ce que je fais, c'est la sagesse. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Je vis avec Dieu des expériences qui me font avancer et je suis l'exemple pour mes enfants. On en parlera d'ailleurs cet après-midi sur le côté d'être le partenaire de nos adolescents. Dans ce texte ici, il y a véritablement ce lien qu'il y a pour nos enfants. Notre mission pour nos enfants, c'est enseigner que la sagesse est basée sur la vérité de Dieu, sur la parole de Dieu, édifier en eux des fondements bibliques de la sagesse et enfin leur apprendre à avoir confiance en Dieu. Dans un monde qui encore plus est plein de toute information, où la vérité devient une vérité optionnelle, pas garantie, le besoin de se retrouver sur l'essence même de ce qu'est la parole de Dieu.
Le temps passe et Joseph a découvert la sagesse et cette relation avec Dieu dans le plus profond des prisons de l'Égypte, mais il est reconnu, il est, alors on dit discrédité et puis recrédité, comment on peut dire ? Son honneur, il est réhabilité. Et maintenant, à le dire, c'est court. Il faut 2 secondes pour dire qu'il est de nouveau le souverain et l'administrateur de l'Égypte, d'Égypte. Mais ça lui a coûté des années. De longues années dans une prison froide, sombre, humide. Mais il n'a pas perdu son cap. Il n'a pas perdu ce qu'il avait appris. Et donc maintenant, il a su que le pays sera dans la sécheresse et subira une famine. Et il est en train de préparer ce pays à cette famine. Mais en même temps, il a eu l'opportunité de devenir père. Et en devenant père, il apprend le concept de la grâce. Et dans le texte, nous le comprenons du fait dans ce texte biblique, par le nom qu'il a donné à ses enfants. Dans le temps passé, c'était très important de mettre un nom et ce que voulait dire le nom qu'on mettait à nos enfants. Alors, c'est très intéressant parce que son premier-né, c'était Manassé, celui qui fait oublier. Et son deuxième-né était Éphraïm, qui veut dire « Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction ». À travers les noms qu'il a donnés à ses enfants, Joseph a transmis son histoire de vie. Mais non pas en gardant la rancune, l'amertume, la vengeance. Au contraire, il a connu la grâce, il a compris qu'est-ce que ça veut dire. La grâce de Dieu et la transmettre. Donc il pouvait avoir toutes les raisons pour avoir encore de la rancune envers ses frères. Mais déjà le nom qu'il a donné à son fils lui a rappelé que il faut oublier. Et il faut apprécier. Et il faut aussi reconnaître, être receveur de grâce. Alors en fait, Joseph, justement, a fait preuve de grâce. Il a accordé la grâce, la miséricorde, le pardon, mais il a aussi reçu la grâce. Joseph a oublié, pas de rancune, il a pardonné, il a reçu la grâce, tout le bien lui venait de Dieu, même si quelquefois ce n'était pas si évident. Et Joseph a donné à Dieu toute la gloire. Il n'en a jamais pris les mérites. Il n'a jamais dit « Ah, c'est grâce à moi parce que j'étais beau ou parce que j'étais intelligent, etc. » Il a toujours dit « C'est grâce à Dieu tout ce que j'ai fait. » Il a reconnu et toujours proclamé Dieu comme son conseiller, le sage qui lui a transmis la sagesse. C'est pourquoi nous avons intérêt à apprendre à nos enfants le même rapport. Apprendre à répondre avec grâce et miséricorde lorsque peut-être ils subissent des offenses, ils subissent des blessures, à considérer les bonnes choses dont ils jouissent comme étant le résultat de la grâce de Dieu et apprécier ces bonnes choses.
Nous avançons année après année, nous retrouvons cette fois-ci la famille de Joseph. Vous savez, il y a parfois des moments dans la vie où il y a un retour de bâton, hein. Un moment où, on va bien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et puis d'un seul coup, quoi, il y a une famine dans le pays. Ah, où est-ce qu'il y a du blé? En Égypte, allons-y. Raisonnement tout simple, tout bête, sans s'imaginer que l'histoire familiale allait revenir en pleine figure. Sans s'imaginer que ce qui s'est passé il y a plusieurs années allait revenir comme un boomerang. Ces fameux secrets de famille qui d'un seul coup reviennent. Et là, on pourrait dire, ah, c'est le moment de se venger. Et le texte nous dit complètement l'inverse. Lorsque Joseph voit ses frères arriver, c'est une destinée qui apparaît pour lui. Une destinée non pas de rancœur, mais de réconciliation. Une destinée qui lui fait dire à mes frères, approchez-vous de moi, je vous en prie. C'est une destinée qui fait dire à ses frères, ainsi ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais Dieu, il m'a fait père de Pharaon. C'est fort quand même. Chapitre 45, on voit très nettement la compréhension de Joseph de son histoire, non pas comme quelque chose de tragique, mais comme quelque chose qui, avec l'aide de Dieu, peut être transformé en bien. C'est vrai que ça prouve une certaine force de caractère et une force profonde de relation avec Dieu qui lui fait dire ma présence ici n'est pas quelque chose d'innocent. Ce passage étonnant voit Joseph qui avait ce sens de la destinée. Qu'est-ce que Dieu a pour moi aujourd'hui? Il a cette destinée de Dieu, Dieu m'a envoyé. Est-ce que nous avons toujours cet esprit-là à proposer à nos jeunes? Là où tu vas, n'oublie pas, Dieu peut avoir une mission pour toi, là où tu es, là où il t'envoie. La destinée, c'est enseigner à nos enfants à transmettre le sens de cela. Même si on a l'impression que là où on est, ça ne sert à rien, peut-être que Dieu est en train de me dire et que je ne veux pas l'entendre. Est-ce que tu ne pourrais pas faire quelque chose pour ceux qui sont autour de toi? Est-ce que je peux aider mon jeune, mon ado, à vivre cela? À faire comprendre que notre destinée se découvre en suivant l'appel de la volonté de Dieu? C'est ici, en tous les cas, un appel que Dieu fait pour chacun d'entre nous.
Et nous arrivons au cinquième fil conducteur, la perspective. Les années encore passent, toute la famille de Joseph, y compris ses frères, son père, etc., sont en Égypte. Et le temps est venu où Jacob quitte cette terre. Et bien sûr, il y a un retour d'inquiétude de la part des frères. Ils se disent, peut-être Joseph était gentil parce que papa était là, mais peut-être maintenant il va se venger. Ça fait réfléchir ça aussi. Les frères n'avaient pas encore compris. Quelquefois, nous aussi, nous ne comprenons pas toujours. Quand quelqu'un nous offre la grâce, que quelqu'un a oublié, a laissé de côté, a voulu effacer les amertumes, a voulu effacer les offenses, on a toujours peur que ça revienne. Et c'est la même crainte de ses frères. Ils disent, ben, on a fait du mal, on était méchants avec lui, il va encore là se venger. Et Joseph, dans le texte que nous pouvons lire en Genèse 50, il dit, non, ne craignez rien. Ne craignez rien parce que moi j'ai pardonné. Moi, j'ai oublié. Je continue à vous aimer comme quand papa était là. Ce n'était pas parce que c'était papa qui était là, mais parce que nous sommes en relation et j'ai effacé tout ce que vous avez pu faire. Ne craignez pas. Et donc, c'est ce projet que Joseph a compris, il a mis les choses en perspective. Et c'est tellement important de les mettre en perspective dans notre vie. Il a le sentiment de sa destinée, mais pas dans le sens qu'il devait, mais dans le sens que dans le projet de vie, dans ce qui a été mis en place par l'être humain, le plan de Dieu est souverain. Et justement, Joseph le souligne. Il dit, vous aviez un plan, votre plan était celui de nuire, de faire du mal. Mais voilà que Dieu est arrivé et il a annulé, il a dépassé le mauvais plan. Et Dieu a accompli et a utilisé le plan pour accomplir le sien. Et Jésus et Joseph prévoient d'aligner ses actions futures au plan de Dieu. Il dit, quoi qu'il arrive, je ferai toujours ce que Dieu a prévu pour nous. Ça, c'est vraiment être capable de mettre en perspective notre vie et de dire, quoi qu'il arrive, il y a un plan derrière, il y a quelque chose, il y a une raison. Alors, enseignons à nos enfants, tout d'abord, que Dieu est le maître de la situation. Dieu est toujours au contrôle. Enseignons aux enfants à savoir interpréter les événements de la vie à la lumière de la souveraineté de Dieu. Dieu est au-dessus de tout. Là, maintenant, dans la minute, ça paraît vraiment une situation difficile. Mais dans quelques années, cette situation difficile, je la verrai avec d'autres yeux parce que Dieu aura eu son mot à dire dans cette histoire. Donc voilà. Nous avons cinq fils conducteurs qui nous aident à transmettre à nos enfants cette possibilité de garder le cap malgré tout. Nous avons le respect, la sagesse, la grâce, la destinée et la perspective.
Alors ce matin, eh bien, Dieu nous propose un défi. Un défi qu'il a déjà proposé à bien des familles depuis Adam et Ève. Un défi qui nous invite tout particulièrement, en tant que parents, éducateurs, tous ceux qui ont une relation avec les jeunes, à intégrer ces cinq caractéristiques, à partager et à vivre et à expérimenter ces cinq caractéristiques. À tout moment, pas uniquement en attendant d'avoir un esprit de raison, parce que même à 50 ans, je ne suis pas toujours sûr qu'on ait une bonne... parfois. Donc à tout moment, ce sont des principes qui se travaillent. À tout moment, en tant que chrétien, nous avons cette possibilité, et Dieu nous le propose, de partager ces cinq défis. Alors vous allez nous dire, mais quel est le rapport avec le fils prodigue ? Mais il y a plusieurs choses. La première, même si on n'a pas plus d'éléments que ce qu'on a dans Joseph, nous avons visiblement une famille dans le fils prodigue qui a été bercée dans les Écritures. Ou en tous les cas dans le respect du père. Et n'oublions pas que c'est une histoire, c'est une parabole. N'oublions pas que Jésus raconte cette parabole pour dire l'enfant qui part du foyer. Alors certainement qu'il y a une connaissance. Et cette connaissance, elle est liée par justement le fils aîné. Mais j'ai tout fait ce que tu voulais. Toute ma vie, j'ai fait ce que tu disais. Je suis le fils parfait. Et tu donnes tout à mon cadet, à mon frère ? Voilà la petite phrase de fin de cette parabole qu'il ne faut jamais oublier. Parce que le pardon est en effet l'un des liens qui se retrouvent tous les deux. Joseph a pardonné. Le père du fils prodigue a pardonné. Le fils aîné n'a pas pardonné. Ça s'apprend aussi. Ça aussi, c'est un élément très important. Alors, j'ai envie de dire, pour conclure, bien sûr, j'aimerais bien que je puisse avoir un enfant qui puisse ressembler à Joseph, même si, hélas, je vais triturer l'intérieur de moi-même en sachant tout ce qui lui arrive. Le pauvre, c'est épouvantable. Maintenant, je ne sais pas. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Dans les deux cas, il faut les préparer à vivre dans n'importe quelle situation. Dans les deux cas, c'est eux qui choisissent. Dans les deux cas, c'est eux qui décident de la relation qu'ils veulent avoir avec leur Dieu, ceux qui sont autour d'eux, et le type de pardon qu'ils sont prêts à apporter. Et ça, nous sommes, nous, en tant que parents et éducateurs, responsables de cette action que l'on peut avoir pour eux. Que le Seigneur nous aide dans ce sens. Amen.